Bonjour.
Bonjour, je suis Sébastien, le marketeur français. Donc aujourd'hui, je réalise cette interview avec Attila qui m'a demandé d'intervenir pour son livre Les millionnaires du temps au sujet de la productivité pour les entrepreneurs et les chefs de petites entreprises. Et tout d'abord, Attila m'a demandé de commencer en me présentant. Donc je suis Sébastien, le marketeur français. Je possède plusieurs entreprises, la plus connue étant une entreprise que j'ai démarrée en premier, qui est une activité de conseil amoureux pour les hommes célibataires, où j'ai créé des ateliers, des séminaires, des livres et des DVD pour conseiller les hommes célibataires et leur apprendre à sortir de leur bulle et se faire connaître. Cette activité m'a permis de passer sur tous les grands médias français et de démarrer une activité entièrement promue sur Internet. Et ensuite, j'ai démarré une seconde activité qui est une activité de conseil pour les chefs d'entreprise qui s'appelle Le Marketeur Français, où nous enseignons à des entrepreneurs et à des chefs de TPE et PME comment développer leur activité, comment réaliser leur marketing. Et enfin, mon entreprise la plus récente, ce sont les éditions Tout Change. C'est une société d'édition, donc une maison d'édition pour les infopreneurs, c'est-à-dire pour éditer des formateurs qui veulent créer des formations sur Internet, en vidéo, en audio, en multimédia, et donc on leur permet de mettre en ligne leurs produits, de faciliter leur vente de leurs produits, et on s'occupe de tout ce que ferait une maison d'édition classique pour eux. Donc j'ai trouvé que c'était particulièrement intéressant comme sujet que de parler de productivité, parce que j'ai eu besoin de découvrir tout ça pour pouvoir gérer plusieurs activités professionnelles en même temps, et pour pouvoir également dégager du temps libre. Notamment en 2013, quand j'ai fait 6 mois de voyage autour du monde avec ma fiancée et que j'ai continué de gérer mon entreprise à distance en un jour par semaine. Ça a été une expérience nouvelle, mais ça a été une expérience aussi de beaucoup d'apprentissage. Et donc, j'espère que cette interview pourra vous aider à atteindre ce même genre de rêve, puisque pour moi, c'était un rêve que de pouvoir faire le tour du monde et pouvoir le faire sans abandonner mon entreprise. Ça a été un plus. Et en plus, mon entreprise a été plus rentable l'année où j'ai fait le tour du monde que les années d'avant. Donc, je dirais que ça a bien marché.
Ouais, c'est ça, on a besoin de toutes ces informations que tu peux nous partager. Ouais, très très intéressant. Bon,
Donc,
Sébastien,
oui.
dis-moi, pourquoi tu aimes être entrepreneur? Pourquoi tu fais ça?
La raison est toute simple en fait. J'ai démarré ma première activité, ma première entreprise parce que je ne supportais pas d'être sur, de devoir me conformer aux horaires et à l'agenda de quelqu'un d'autre et d'être donc à la merci de mon patron, de mon supérieur hiérarchique. Puisque j'ai démarré ma carrière en tant qu'ingénieur informatique, j'ai travaillé 4 semaines dans le job de rêve, dans la boîte de rêve que je voulais pendant les 9 ans où j'ai fait mes études. Avant de me rendre compte que c'était pas du tout fait pour moi et que je ne supportais pas ça et qu'il fallait que je sorte et que je démarre ma propre activité. Donc pour moi, c'est pour la liberté que ça me permet de vivre en mes propres termes, sur mes propres horaires, de n'importe où je souhaite dans le monde.
Et comment tu as piqué et choisi le premier sujet, c'est le truc séduction pour les hommes?
À la base, j'étais un grand timide il y a un peu plus d'une dizaine d'années maintenant. Donc ça remonte à pas mal. Mais j'étais un grand timide. Quand j'étais jeune, je ne savais pas me faire des amis, discuter avec une jolie femme qui m'intéressait. Je ne savais pas engager la conversation. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que rien n'allait changer si moi, je ne me bougeais pas. Donc j'ai décidé que j'en avais marre d'être timide. Et pour en finir avec ma timidité, j'ai tout simplement décidé que j'allais démarrer la conversation avec tous les inconnus que j'allais croiser, toutes les inconnues notamment que j'allais croiser. Et donc j'ai abordé plus de 1000 femmes en un an. J'ai raconté ces expériences sur un blog qui s'appelait Séduction by Night, qui n'existe plus aujourd'hui. Mais ce blog est devenu très populaire parce que je racontais au fur et à mesure mes anecdotes, mes rencontres, mes sorties, mes expériences. Et à une époque, donc quand on cherchait séduction dans Google, ce blog apparaissait toujours dans les 3 premiers résultats. Et il s'est trouvé que c'était la même époque où, en tant qu'ingénieur informaticien, je me rendais compte que je ne pouvais plus travailler en tant que salarié. Je cherchais une idée d'entreprise à créer. Et ça a pris 9 mois pour que je finisse par faire le lien entre le fait que j'avais déjà un site où des dizaines de personnes me demandaient dans les commentaires sur mon blog est-ce que je proposais des ateliers, du conseil ou du coaching. Et d'un autre côté, le fait que je voulais créer une entreprise, ça m'a pris 9 mois pour faire le lien entre les deux et dire bah, je vais démarrer ça, je vais faire une activité de coaching en séduction. C'était un métier très nouveau à l'époque, puisque en 2006-2007, quand j'ai démarré, on n'était que deux coachs en séduction en France. Aujourd'hui, il y en a des centaines, mais à l'époque, il n'y en était que deux. Et les gens ne savaient pas ce que c'était comme métier. Donc, j'ai dû apprendre le marketing pour faire connaître mon métier et ma proposition, et ensuite développer cette activité. Voilà, c'est dans la dernière année d'activité, on a fait 340 000 euros sur cette activité de coaching en séduction. Et ensuite, c'est ce qui m'a amené à donner à mon tour des conseils aux chefs d'entreprise sur leur marketing, puisque ça avait marché pour moi.
Tout à fait. OK, bon, la sélection des clients, c'est aussi quelque chose de similaire.
Oui, ma formation de marketing s'appelle Séduire le client.
Hein? OK. Pourquoi tu penses que, qu'est-ce que tu penses? Pourquoi la productivité et le temps, c'est un sujet important pour les entrepreneurs?
Je dirais que si on ne se penche pas sur sa méthode de productivité, si on n'a pas de méthode de productivité, alors on risque de tomber dans des habitudes piégeuses, dans des habitudes qui sont nuisibles. Et au final, de passer de très longues journées, je connais beaucoup d'entrepreneurs qui passent de très très longues journées de travail, qui travaillent 7 jours sur 7, qui n'ont pas un jour de repos, mais qui au final n'accomplissent pas grand-chose. Pour moi, c'est notre responsabilité en tant qu'entrepreneur que d'aider le maximum de clients en générant le maximum de profits. Et on peut pas générer un maximum de bénéfices et aider un maximum de clients si on prend des mauvaises habitudes, si on se contente d'agiter les bras et de mouliner dans le vide, ce qui est ce que beaucoup de personnes font en étant, et on en parlera sûrement tout à l'heure, le fait d'être réactif et d'être toujours, par exemple, en train de surveiller ce qui se passe dans notre boîte mail, de décrocher le téléphone, etc., fait que, pour moi, on prend un risque qui est de ne pas faire avancer la barque. Moi, je considère qu'il y a trois types d'activités que peut faire un entrepreneur dans son entreprise. Et ces trois types d'activités, c'est les activités qui maintiennent le bateau à flot. Donc ça, ce sont des activités qui sont obligatoires, elles prennent du temps, mais il faut que ça soit fait. C'est par exemple faire les déclarations auprès de l'État sur notre chiffre d'affaires, notre nombre d'employés, des choses comme ça. Disons que si vous ne le faites pas, vous allez vous retrouver avec l'État sur le dos, et c'est jamais une bonne chose. Donc il y a un certain nombre d'activités, surtout des activités administratives, qui sont des activités qui maintiennent le bateau à flot et qui, sans elles, risqueraient de mener à la disparition de l'entreprise. Deuxième type d'activité, ce sont les activités motrices. Ce sont celles qui font entrer de l'argent dans l'entreprise et qui font avancer le bateau. D'accord? Il ne suffit pas juste de le maintenir à l'eau, il faut la faire avancer. Donc c'est le fait de générer des nouvelles ventes auprès de nouveaux clients.
Tout à fait.
Et le troisième type d'activité, c'est les activités directrices. Ce sont les activités qui permettent de définir le cap, dans quelle direction est-ce que je fais avancer mon entreprise. Ce sont des décisions stratégiques. Et autant les deux premiers types d'activités peuvent être délégués, autant ce troisième type ne peut pas réellement être délégué quand on est dans une situation d'entrepreneur. Plus tard, il est envisageable de placer un gérant et même de passer un PDG si on est en SAS, en société anonyme par action. Mais ce n'est pas possible de le faire au tout début, quand on est tout seul, de juste se dire, je vais embaucher quelqu'un qui va s'occuper de tout, le stratégique, les activités motrices et les activités qui maintiennent le bateau à flot. Sinon, bon, dans ce cas-là, je dirais, on ne sert à rien dans l'activité de start-up et on n'en assume pas la responsabilité. Donc voilà, il y a ces trois types d'activités. Et un entrepreneur intelligent, c'est déléguer pour pouvoir se concentrer sur les activités stratégiques, les activités directrices, parce que c'est là qu'est la vraie valeur ajoutée qu'on a en tant qu'entrepreneur. Donc très vite, il faut se débarrasser de tâches administratives et de tâches de livraison du produit pour se concentrer uniquement sur le stratégique et le commercial et le marketing. Puis, il faut apprendre à également déléguer le commercial et le marketing pour se concentrer que sur la stratégie, parce que c'est ce qui permet à l'entreprise de croître et de continuer d'augmenter son chiffre d'affaires.
Tout à fait. Tu as mentionné ces 6 mois de autour du monde, hein, ton grand projet. Comment tu as organisé pas le voyage lui-même, mais simplement comment tu as organisé ton travail quotidien ou hebdomadaire de distance?
Bien, quand ma fiancée, qui n'était pas ma fiancée à l'époque, mais juste ma compagne, puisque j'ai demandé un mariage en Inde pendant ce tour du monde. Donc avec ma compagne Cécile, on a commencé à discuter de ce projet fou de partir pendant 6 mois autour du monde. Une des plus grandes objections et inquiétudes qu'elle avait et qu'elle m'a tout de suite communiqué, c'est « Oui, mais le but de ce voyage, c'est pas juste que tu sois derrière ton PC à travailler 24 heures sur 24 comme tu le fais en France et avec sur nos photos de souvenirs, on te voit avec ton PC en train de travailler et il y a juste le fond qui change. » Donc, j'ai pris à cœur de ne pas me retrouver dans cette situation-là et je me suis dit, effectivement, à l'époque, je n'avais pas de système de productivité particulier. Je travaillais effectivement tout le temps, tous les jours, sans exception. Je me levais tôt, je me couchais tard. Et je me suis rendu compte que beaucoup de ce temps-là n'était pas indispensable. Donc, la première étape pour moi, ça a été de mesurer. J'ai créé un nouvel agenda dans Google Agenda, qui est un agenda électronique. Je l'ai mis dans mon téléphone, dans mon iPad et sur mon ordinateur. Et environ toutes les demi-heures, je me disais, OK, qu'est-ce que j'ai fait pendant la demi-heure qui vient de s'écouler, ou le quart d'heure, ou l'heure, selon le moment où j'y repense, d'accord ? Je n'ai pas mis de minuteur, mais c'est juste très régulièrement dans ma journée. Je me disais, OK, qu'est-ce que je viens de faire là pendant une demi-heure ? Qu'est-ce que je viens de faire pendant une heure ? Et je notais ces tâches dans mon agenda en les catégorisant. J'ai passé une heure à débugger mon blog WordPress parce que il y a eu encore un énième plantage. J'ai passé 2 heures à répondre à un mail d'un client. Ou alors des fois ça arrive de se dire, il est 17h, je lève le nez et je me dis, OK, ça fait 3 heures que j'ai pas noté ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait pendant les 3 dernières heures? Et ça m'est arrivé de me dire, bah en fait, j'en ai aucune idée. Je suis même pas capable de dire quelle est la tâche qui vient de me prendre 3 heures. Je viens de travailler pendant 3 heures. J'ai tapoté sur mon ordi. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Où sont passées ces 3 heures? Et en fait, quand j'ai commencé à faire cette mesure, ça a été vraiment effarant de me rendre compte le volume de temps passé à des tâches que je ne devrais pas être en train de faire, que j'aurais dû déléguer à quelqu'un d'autre de mon équipe, par exemple, ou qui ne devaient pas être faites du tout. Des tâches qui ne font pas avancer l'entreprise, qu'on fait par réflexe ou par habitude, ou enfin du temps passé et perdu à des activités dont on se souvient même plus une heure plus tard et donc qui auraient pu être éliminées. Donc ça m'a permis de condenser mon temps de travail énormément. J'ai utilisé une autre méthode qui est celle de l'organigramme. Je ne sais pas si je peux en parler là. C'est très simple. La méthode de l'organigramme, c'est créer l'organigramme de ma société comme si chaque fonction, chaque poste était occupé par une personne différente. Donc, ouais. Déterminer qu'il y a tout en haut, il y a les actionnaires qui détiennent la société. Ensuite, il y a le gérant. En dessous du gérant, il y a son assistante. Et en dessous, il y a des directeurs de département. Donc, il y a un directeur de département marketing et commercial, administratif, création du produit, etc.
Ouais.
Et ensuite, au sein de chaque département, on met les différents postes. Par exemple, dans marketing et commercial, bon, ben, il y a un copywriter, c'est-à-dire un rédacteur publicitaire qui écrit nos scripts de vente. Il y a un commercial qui passe les coups de fil. Il y a un technicien web pour mettre en ligne les pages de vente. Il y a un technicien vidéo pour mettre en ligne les vidéos. Et le but, c'est de faire tout cet organigramme, même si vous êtes tout seul ou avec un très petit nombre d'employés dans votre entreprise. Donc, au début, quand je l'ai fait, la toute première fois, j'étais tout seul, donc j'occupais tous les postes, il y en avait à peu près 30. La deuxième fois que j'ai fait cet organigramme, il y avait 50 postes dans mon entreprise et mon assistante en occupait... Non, 60 postes. Mon assistante en occupait 31, j'en occupais 29. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est plutôt pas mal, je fais moins de la moitié maintenant du travail. Et puis, au fil du temps, en faisant cette méthode de l'organigramme, on se rend compte des postes dont il faut se débarrasser. C'est-à-dire, pas des gens qu'il faut virer, mais plutôt quels sont les postes desquels je dois me virer, moi, pour laisser la place à quelqu'un d'autre. Parce que si je suis à la fois l'associé ou actionnaire, le gérant, la personne qui s'occupe du SAV, je suis le copywriter, je suis le marketeur, je suis le formateur sur les vidéos, je suis au four et au moulin.
Ouais.
Il y a un moment donné où on ne peut pas tout faire et nos journées sont limitées en termes de nombre d'heures et on n'exécute pas les tâches aussi bien qu'elles devraient être exécutées. Donc, je détermine très rapidement quelles sont les tâches où la délégation de cette tâche va me permettre de très vite augmenter mon nombre de ventes. Soit parce que la tâche en elle-même est génératrice de ventes et qu'en le donnant à quelqu'un qui va être à plein temps dessus, ça va me rapporter plus que ce que je vais le payer, comme une tâche de commercial. Mon commercial, par exemple, Dans les premiers mois, le premier mois où j'ai embauché en commercial, il a fait 8 000 euros de commission.
Ouais.
Donc j'ai payé 8 000 euros. Ça peut sembler être une somme énorme, mais quand on y pense, sa commission est basée sur un pourcentage. Il touche un pourcentage qui va de l'ordre de 8 à 10% sur certains gros produits, sur les grosses campagnes. Donc en fait, pour toucher 8 000 euros, il faut qu'il ait généré 80 000 euros de chiffre d'affaires.
Tout à fait.
Maintenant, quand on y pense, est-ce que vous échangeriez 8 000 euros contre 80 000 euros de chiffre d'affaires? Je pense que la réponse est oui, surtout que la commission n'est payée qu'après qu'il ait fait les ventes. Donc c'est en fait un poste, une fois qu'on l'a délégué, c'est zéro risque si on recrute la bonne personne. Donc ça, c'est un exemple de poste générateur de chiffre d'affaires. Sinon, d'autres postes qu'il faut déléguer sont des postes qui ne sont pas générateurs de chiffre d'affaires, mais qui sont tellement consommateurs de temps que ça nous empêche de générer du chiffre d'affaires. Comme par exemple le service client, le fait de faire soi-même le service client. Ce que j'appelle le service client, c'est le service après-vente. Hein. C'est répondre au client par email quand il demande où est mon lien d'accès, j'ai pas reçu le produit, est-ce que je peux avoir une facture? Ça, c'est extrêmement, extrêmement chronophage, c'est-à-dire consommateur de temps. Mais le problème, c'est que si c'est vous qui le faites en tant qu'entrepreneur, vous perdez du temps à le faire. Donc, c'est du temps qui ne rapporte pas, qu'on pourrait passer à créer un nouveau produit, à commercialiser un nouveau produit, à signer avec un gros client. Et en plus, comme on n'est pas optimal, on ne fait pas ça 24 heures sur 24, le service client, il y a des gens qui vont attendre une semaine, 2 semaines pour avoir une réponse, et donc ils vont être insatisfaits, qu'ils ne vont pas revenir et racheter, alors qu'on aurait pu sauver ces clients-là en ayant une personne dédiée pour s'occuper d'eux. Donc, ça a été aussi un très bon investissement pour moi que d'embaucher quelqu'un pour s'occuper de ce service client.
Ok. Ça, je comprends. Et en ce qui concerne votre tour de monde, comment tu as organisé ton travail hebdomadaire? Parce que si j'ai bien compris, tu as passé uniquement une seule journée par semaine.
Oui, c'était le deal.
Ouais. Et comment tu as fait ça?
Eh bien, premièrement, je n'ai pas sauté tout de suite du jour au lendemain dans un mode d'organisation de 6 heures par semaine, sinon ma boîte aurait coulé. Ce que j'ai fait, c'est que je m'y suis pris plusieurs mois à l'avance en disant petit à petit, on doit arriver à ça. Donc j'ai fait ce travail d'investigation des postes de gens que je devais embaucher. J'ai fait un travail d'évaluation de ce que je faisais comme tâche. J'ai fait un énorme travail de création de procédures, ça c'est très important. Chaque personne dans mon activité qui effectue des missions doit créer des procédures qui expliquent ce qu'elle fait, de façon à ce que n'importe qui puisse prendre la relève. Donc j'ai moi créé les procédures et formé des gens pour reprendre certaines actions à ma place, pour qu'ils sachent quoi faire. Et ensuite, pour l'organisation de mes 6 heures, je les ai réparties en fait entre ces activités. Comme je disais, il y a 3 types d'activités, donc celles qui font flotter, celles qui font avancer, celles qui définissent la direction. Donc, les activités qui définissent la direction, c'est surtout du temps de réflexion. Je ne les comptais pas dans mes 6 heures. C'est-à-dire, si je suis sur le Taj Mahal et que j'ai une soudaine idée, tiens, il faudrait qu'on arrête telle ligne de produit pour en créer telle autre, je ne la compte pas dans mon temps de travail, cette réflexion flash qui traverse mon esprit, si on veut, mais elle est très importante. Mais donc, les activités qui étaient dans mon emploi du temps, c'était les activités donc des 2 autres types. Et j'essayais de caler le plus d'activités possible du type activité motrice, c'est-à-dire celle qui rapporte de l'argent sur un plan commercial. Donc, ce que j'ai fait pour préparer ce voyage, c'est de m'assurer de mettre en ligne et en vente, de préparer tout notre système de vente pour un nombre fini de produits. C'est-à-dire que quand je suis parti en voyage, j'avais N produits disponibles à la vente avec tous les scripts de vente, toute la machine de vente, il suffisait de mettre des prospects dedans. Et comme ça, mon temps à moi, générateur de vente, consistait seulement à discuter avec des partenaires pour qu'ils fassent notre propre promotion de nos produits ou services, discuter avec notre commercial pour qu'il sache qui appeler pour faire la promotion des produits ou services. Mais donc, c'était plus du temps de construction. Je pense que si on veut réduire énormément son temps de travail, ce temps de construction, il faut le faire avant en préparation ou alors il faut trouver des gens à qui le déléguer, ce que j'ai fait. J'ai délégué la mise en ligne de nos contenus de formation. Donc, je me suis mis face à une caméra, j'ai filmé, j'ai tout enseigné et je donnais toutes les vidéos brutes à quelqu'un en lui disant, il faut que tu découpes les vidéos, que tu mettes les chapitres en ligne sur notre site privé Presto Market, donc qui est le support qu'on utilise pour héberger nos formations. Et il faut que tu crées les bons de commande, etc., pour que tout fonctionne. Donc, ce que j'ai fait en fait en préparation, c'est que j'ai créé une machine huilée de façon à ce que pendant mon voyage, je puisse me contenter d'entretenir la machine et d'amener plus de prospects en haut dans l'entonnoir d'entrée pour faire sortir plus d'argent en bas en sortie de machine.
C'est super.
Donc, voilà comment j'ai préparé. Maintenant, tu parlais de l'organisation de ma journée. Pour l'organisation de ma journée, pour moi, il y a un concept primordial qui est un concept que je tiens d'un livre de Brian Tracy qui lui-même le tire d'un proverbe chinois. Ce proverbe chinois dit « Si tu manges un crapaud vivant tous les matins, c'est une recette pour le bonheur parce que si tu manges un crapaud vivant tous les matins, il ne peut rien t'arriver de pire pendant le reste de la journée. »
Ouais, tout à fait. C'est ça. C'est un bon.
Et donc, le livre s'appelle en anglais Eat the Frog. Je ne sais pas quel est son titre en français. Mais moi, j'ai repris ce concept qui est la grenouille. C'est-à-dire, je définis toujours, chaque semaine, une tâche. En ce moment, cette semaine, par exemple, la tâche en question, c'est la rédaction de la dernière page de notre newsletter mensuel, puisque la dernière page est toujours ce qui me prend le plus de temps et d'énergie intellectuelle pour m'y mettre. C'est ma grenouille. C'est-à-dire, c'est ma tâche extrêmement importante. Mais pas la plus importante, c'est la tâche qui a été le plus repoussée, qui a le plus de procrastination et qui pourtant a un direct retour financier. Par exemple, si j'ai procrastiné pendant 2 mois d'envoyer un email à un ancien client pour lui demander des nouvelles, je ne mets pas ça comme tâche grenouille parce que c'est pas juste ce mail qui va apporter un retour.
Okay.
Mais voilà, je définis comme étant la tâche soit de flottaison, soit motrice qui a le plus de retard et qui doit absolument être fait. Et c'est la première chose que je fais au début de ma journée, c'est d'exécuter cette tâche. Et la deuxième chose que je fais, c'est une tâche de production d'une ressource qui va me servir après pendant des années.
Par exemple,
Je donnais l'exemple de la rédaction de notre newsletter. Cette newsletter, c'est une lettre qu'on envoie par la poste, c'est la lettre du marketeur français. Et en fait, on réutilise après ce contenu marketing de la lettre pour faire un podcast. Et on réutilise aussi la lettre papier en elle-même pour l'envoyer plus tard à tout futur nouveau client.
Wow.
Donc, c'est quand j'écris la lettre une fois, elle va servir peut-être encore pendant 10 ans, pendant 20 ans. Alors, je ne peux pas lire dans l'avenir, mais je veux dire, j'ai créé une ressource pour plus tard. Si je crée, par exemple, une vidéo de vente pour une de nos formations, eh bien, je crée une ressource aussi qui va servir pour plus tard. Rédiger un article de blog qui sera, je dirais, un article prêt à porter, prêt à jeter, pour moi, ça consiste pas... C'est pas ce que j'appellerais créer une ressource de long terme. Mais écrire un livre, c'en est une. D'accord ? Donc, je crée quelque chose. Et pour moi, ça peut être quelque chose qui va être disponible sur le marché. Donc, soit comme contenu gratuit, comme un livre électronique, une vidéo, une lettre pour mes clients. Soit comme contenu payant, comme filmer des vidéos pour créer un nouveau produit de formation, créer une nouvelle séquence de vente de formation. Soit c'est quelque chose qui va nous servir toujours en interne. Par exemple, créer la procédure qui explique comment rédiger un script de vente comme Sébastien, eh bien, quand j'ai créé cette procédure, c'était donc ma tâche productive, ma première tâche d'une journée productive. Cette procédure m'a rapporté des dizaines de milliers d'euros parce que depuis que j'ai fait cette procédure, j'ai pu la donner à des rédacteurs publicitaires que j'ai formés pour qu'ils puissent rédiger des textes pour moi. Donc, je n'ai plus aujourd'hui à rédiger mes scripts pour mes vidéos de vente. Mmh. Donc, ça me libère énormément de temps.
Tout à fait.
Voilà. Donc, pour moi, c'est très important de faire cette distinction qu'on peut retrouver dans certains livres comme The Millionaire Fastlane, qui n'a pas encore été traduit en français, de M.J. DeMarco. Son idée, c'est que le monde est séparé entre les producteurs et les consommateurs. On a tous des moments dans notre vie où on est consommateur, face à la télévision notamment. Mais celui qui s'enrichit, c'est toujours le producteur. Et en tant qu'entrepreneur, il faut donc démarrer, c'est ma philosophie, on démarre toujours, toute journée, par un acte productif avant d'être en mode consommation.
Waouh. Voilà. Super. Et après, qu'est-ce que tu fais dans la journée, au cours de la journée?
Qu'est-ce que je fais dans la journée?
Encore. Bon, tu as ces deux premières choses importantes. Et après, comment tu gères l'email, Facebook, etc.
Alors, Je n'utilise que très peu l'email. Ce qui est assez drôle pour quelqu'un comme moi qui a près de 200 000 abonnés à ses newsletters par email. Donc, on envoie des millions d'emails chaque mois. Mais de mon côté, je ne l'utilise que très peu, voire pas du tout. C'est-à-dire que quand on écrit à une adresse en fait qui est reçue par mon assistante. C'est elle qui traite et qui répond aux demandes. Et je pense que tu parlais de productivité, on parle de productivité aujourd'hui. Pour moi, un des critères les plus importants qui me permettent d'être productif, c'est que je ne suis pas interruptible.
Oh.
On ne peut pas m'interrompre dans ma journée. Mon téléphone est en mode avion ou en mode silencieux. Là, actuellement, il est en mode silencieux. Donc, si quelqu'un appelle, ce qui arrive assez rarement, parce que je ne divulgue pas mon numéro de téléphone aux clients ou autres, eh bien, mon téléphone ne sonne pas, d'accord? Donc, si je ne suis pas en train d'attendre l'appel, je ne saurais pas que mon téléphone a sonné. Je n'entends pas des SMS arriver, je n'entends pas des emails arriver. Comme je disais tout à l'heure, mes emails sont filtrés. On ne peut pas me faire sonner sur Skype parce que je suis en mode ne pas déranger, donc ça ne sonne pas. Donc, si je ne regarde pas, si je n'attends pas un rendez-vous, si je ne regarde pas s'il y a quelque chose de nouveau, eh bien, je ne suis pas interrompu. Donc, le seul moyen de m'interrompre, ça serait de venir, puisque mon bureau se trouve actuellement à mon domicile, ça serait de venir et de sonner à la sonnette de l'interphone. Le seul moyen de m'interrompre, si je suis en train de travailler, de tourner une vidéo, de faire cette interview avec toi aujourd'hui, on ne peut pas m'interrompre. Et pour moi, c'est quelque chose qui est très important parce que du coup, ça me libère énormément. J'ai la liberté d'avancer sur mes missions en sachant que je peux me concentrer sur quelque chose pendant 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, sans aucune interruption. C'est pour moi un des plus gros facteurs de ma productivité.
En ce qui concerne les emails, bon, si j'ai bien compris, ton assistante gère les emails. Et après, comment tu regardes les emails? Tu as l'accès à la même email adresse ou comment tu fais ça? Comment tu réponds? Ou tu réponds jamais?
Donc, j'ai beaucoup d'adresses email qui mènent toutes vers la même boîte en fait, mais ça ajoute un préfixe dans les titres des mails, donc on sait pour quelles raisons ils ont été envoyés. Donc, mais par exemple, nos partenaires, s'ils nous envoient un mail, envoient sur partenaire à touchange.fr, nos clients envoient sur notre adresse @touchange.fr, etc. Et ces emails arrivent chez la personne de l'équipe qui s'occupe de cette mission. Donc, pour les partenaires, c'est notre responsable communication partenaire. Pour le SAV, c'est notre conseillère client, etc. Je reçois, la plupart de ces adresses arrivent en copie dans une boîte mail à laquelle j'ai accès. Donc, je peux voir ce qui s'échange dessus. Cependant, ce n'est pas de ma responsabilité. Donc, je vais rarement voir. Et donc je vais voir si j'attends quelque chose parce que du coup ça me permet quand même d'économiser du temps. Imaginons, je sais que j'ai rendez-vous avec toi, Attila, pour notre interview à 17h heure de Paris. Il est 16h58 et je suis pas disponible. Bon ben, au lieu de dire à mon assistante de t'envoyer un mail, bon je peux aller directement dans la boîte et t'envoyer le mail depuis cette adresse. De façon à ce que tu sois au courant, par exemple. Ou aller voir moi-même si tu as confirmé l'heure pour aller voir. Donc, je peux le faire moi-même, mais je ne le fais de façon générale pas.
D'accord.
Et donc, voilà, c'est traité. Chaque personne de l'équipe traite les emails en fonction. Mais au sein de l'équipe, par exemple, on ne communique pas par email.
Et comment vous communiquez?
Au sein de l'équipe, on communique soit via Skype pour les communications qui doivent se faire en temps réel. Quand deux membres d'équipe sont là en même temps, soit via Trello, qui est notre outil de gestion de projet, puisque si je suis responsable du SAV et que je dois communiquer avec toi, qui est responsable du côté commercial, c'est soit parce qu'il me manque une information que je peux te demander sur Skype, si tu es en ligne, soit il faut que je te transmette, qu'il faut que tu me donnes l'information. Donc, dans la plupart des entreprises, les gens le feraient par mail. Le problème, c'est que pour moi, le mail, c'est un système d'échange qui ne permet pas de suivre la responsabilité de la personne à nous répondre. Donc, si je t'envoie un mail à toi pour me répondre à ma question, il se peut très bien que ce jour-là, tu aies eu 65 mails et que mon mail passe à la trappe. Alors que le fait de le mettre dans un outil de gestion de projet fait que je crée une carte qui est associée à cette personne en lui disant « Voici ma question, j'attribue cette carte à un responsable et je définis une date à laquelle j'ai besoin d'avoir une réponse. »
Ah, d'accord.
Et ça me permet donc d'avoir le suivi parce que toi, à qui la carte est associée, tu vas avoir une alerte dans Trello Et tu vas également avoir dans ton calendrier cette tâche qui va apparaître avec un rappel si la date limite approche. Et voilà, c'est juste un système plus efficace de communication que l'email.
Tout à fait. Bon, tu mentionnes ces Trello. Quels autres software logiciels ou apps vous utilisez pour maintenir et augmenter votre productivité?
Au sein de mon équipe?
Oui, toi-même personnellement.
Alors, à titre personnel, j'ai utilisé un outil pendant longtemps qui s'appelait Todo, qui s'écrit Todo, Todeux.com. Les Américains ne savent pas prononcer la syllabe E, donc ils pensent que ça se prononce comme OU. Donc, Todo.com, c'est un outil de liste de tâches à faire. L'intérêt, c'est que c'est très bon marché. Je crois que ça coûte 2 € par an. Et c'est un des outils les plus simples qui permettent de juste avoir une liste de choses à faire et de définir des tâches récurrentes. Par exemple, tous les lundis, faire notre point financier avec le banquier. Hop, c'est une tâche qu'on peut mettre dans Todo. Donc, c'est quelque chose que j'ai utilisé pendant longtemps, que je laisse un petit peu plus de côté maintenant parce que je confie de plus en plus de mes tâches soit à mon assistante ou manager de projet, soit à mon assistante personnelle, si c'est des tâches personnelles, en lui disant, bon ben voilà, il faudra me rappeler ça à telle date, il faut faire avancer tel projet. Donc je délègue plus maintenant, donc je n'ai plus besoin d'avoir une to-do list de la même façon que j'avais avant. Donc on utilise Trello pour gérer nos projets en tant qu'équipe, on utilise Google Drive pour partager nos fichiers et notre manuel de procédure. Et comme d'autres outils, et puis Skype pour la communication de vive voix au sein de l'équipe. Donc c'est à peu près tout en termes d'outils logiciels. On utilise Google Agenda pour définir nos différents agendas. On a un agenda pour les séminaires, un agenda pour les promotions marketing, un agenda pour partager avec nos clients pour qu'ils sachent quelles sont les prochaines sessions en direct pour les formateurs qu'on accompagne dans les éditions Tout Change, par exemple. Et donc voilà, on est assez bien intégré avec les outils Google de façon générale parce que ça nous simplifie pas mal la vie.
Super. Tu as mentionné Brian Tracy et son bouquin. Est-ce que tu as d'autres bouquins, séminaires préférés que tu as utilisé, appris, étudié?
Toujours sur le thème de la productivité?
Oui.
Alors, je n'ai pas lu le bouquin de Brian Tracy, Eat the Frog, j'ai juste vu la promotion et c'est là que j'ai dit l'idée. Mais oui, bien sûr. Enfin, je pense, c'est mon intime conviction, donc c'est pour ça que je n'ai pas acheté le livre. Je pense qu'une fois qu'on a compris le principe de commencer par la chose la plus pénible ou la plus procrastinée en premier, on a compris tout ce qui se dit dans le livre en 250 pages. C'est ma théorie et jusqu'ici, tous les gens qui ont lu le livre m'ont dit que c'était correct. Maintenant, comme autre livre sur le sujet, écoute, j'ai commencé à lire Get Things Done.
Oui.
Et j'ai trouvé que c'est un excellent livre. J'ai lu à mes tout débuts en tant qu'entrepreneur, donc ça fait une dizaine d'années. Et ce que j'y ai trouvé, c'est l'idée de toujours poser par écrit les tâches, les missions et les projets, de ne jamais les garder dans sa tête. Ça m'a énormément libéré et permis de déléguer mieux d'ailleurs. Et puis, le problème, c'est que, voilà, il dit dans le livre à un moment, si vous arrêtez de lire ce livre ici, alors vous aurez appris ce qui est le plus important. Et il explique ce concept de toujours mettre par écrit. Et en fait, je me suis arrêté le livre exactement là. Donc, je pense que j'ai appris ce qui est le plus important. Mais évidemment, les fanatiques de GTD ne seront pas d'accord avec moi. Mais donc, non, sur la productivité, je dirais que ce qui m'a le plus aidé, c'est pas dans des livres que j'ai trouvé les solutions que je cherchais, c'est en analysant quel était mon système, ou plutôt mon absence de système à l'époque de productivité, et quelle était la façon dont je pouvais faire rentrer la productivité que je voulais dans le temps dont je disposais.
D'accord.
Et je pense que c'est une question vraiment à se poser, qui est de combien de temps je dispose, combien de jours libres je veux avoir, quels sont les horaires où je ne veux plus travailler. Par exemple, j'ai décidé que à un moment donné, il fallait que j'arrête de travailler le soir après dîner parce que ça m'empêchait de passer du temps avec ma fiancée. Donc, j'ai dit j'arrête, voilà. Et donc, voilà, il faut poser des limites, des jalons. Et c'est comme ça qu'on peut se créer son système de productivité qui corresponde à chacun.
D'accord. Moi, j'ai bien compris, je pense, ton système de productivité. Est-ce que vous avez un autre système ou système pour mesurer la productivité?
Un système pour mesurer la productivité?
Oui.
Je mesure mon chiffre d'affaires.
Ah,
Donc j'ai
d'accord.
un objectif que je veux atteindre et je mesure la progression chaque semaine. Donc on peut avoir une mauvaise semaine, mais pas, on peut pas avoir plusieurs mauvaises semaines d'affilée puisque c'est mesuré et on peut intervenir. Et pour moi, notre production se mesure en chiffre d'affaires, en nouveaux clients qu'on a aidés, en nombre de témoignages reçus de clients qui ont atteint un résultat. Et donc l'entreprise vise à avancer sur ces métriques-là. Si on avance sur ces métriques-là, alors on est productif.
D'accord. Comme une dernière question, en bref, quel est ton succès? Bon, quel est ton secret pour ton succès? Entrepreneur, dans ton entreprise, l'entrepreneur.
Mon secret de succès en tant qu'entrepreneur.
Ouais.
Je dirais que il y a beaucoup de concepts qui sont faciles à comprendre de tout le monde. Le concept qu'il faut apprendre, le concept qu'il faut s'entourer des meilleurs, faire partie de mastermind avec des entrepreneurs d'élite, c'est quelque chose qui nous aide énormément, tu le sais, puisqu'on fait partie ensemble de mastermind. J'ai fondé en France un groupe d'entrepreneurs en mastermind qui s'appelle Les Agisseurs et c'est aussi quelque chose qui contribue énormément à mon succès. Ça, ce sont des concepts que beaucoup de gens comprennent. Je dirais que un concept que très peu de gens comprennent et qui nuit à leur succès, c'est la vaste majorité des entrepreneurs n'ont pas encore compris qu'ils ont besoin d'être uniques et d'être le meilleur. Dans quelque chose, d'avoir une personnalité unique sur leur marché et de défendre des valeurs uniques pour réussir. Je dirais que si mon activité, le marketeur français, a eu autant de succès, ainsi que mes autres activités, mais notamment celle qui est en ce moment la plus florissante, le marketeur français, celle pour laquelle tu m'interviews, tu vois. Si cette activité a du succès, c'est parce que quand on va suivre une formation du marketeur français, on n'est pas. En contact avec n'importe quel formateur du web qui donne des conseils pour gagner des sous pour son entreprise web. On a une personnalité unique au sein de mon équipe du marketeur français. On a une vision d'avenir, on a un objectif stratégique, on a des principes opérationnels qui se trouvent en pied de page de tous nos sites. Si quelqu'un va sur lemarketeurfrançais.com/CGV, il y a les liens de nos objectifs stratégiques et nos principes opérationnels. On défend ces principes, on en discute chaque semaine en équipe pour vérifier qu'on est en accord avec ces principes. Et ça nous rend unique. Ça nous rend unique. On a une personnalité, une façon de communiquer, un dynamisme, un enthousiasme, des valeurs, parce que nos formations, on veut qu'elles soient basées sur du concret, du vécu, des exemples, qu'il y a des exercices, que les gens donc, puissent les utiliser. Et c'est pas juste de la culture générale, nos formations. Et je dirais que ce que beaucoup d'entrepreneurs comprennent pas, c'est ça, c'est ce besoin d'être unique, d'être spécial, d'aller chercher plus loin. Et je pense que le meilleur moyen d'adopter cette mentalité-là, c'est de s'entourer des meilleurs, d'aller chercher qui sont les meilleurs entrepreneurs et d'aller se former auprès d'eux s'ils font des formations ou d'aller juste passer du temps avec eux si vous savez qu'ils vont être présents à un événement, un congrès, une conférence, ou d'entamer la discussion quand on les croise. J'ai cette chance aujourd'hui que ça m'arrive assez régulièrement, je suis toujours ravi quand ça m'arrive. Ça m'est arrivé pas longtemps, il n'y a pas longtemps, dans le lounge, première classe de United à l'aéroport, juste quelqu'un qui vient d'entamer la conversation en disant bonjour, voilà, j'ai vu votre vidéo, et en fait, j'ai mon projet d'entreprise, la vidéo m'a aidé, et puis, on a passé au final 1 heure et demie à discuter ensemble, donc je lui ai donné plein de conseils gratuitement parce que c'est juste quelqu'un que j'ai croisé dans la rue. Donc je pense que faut pas négliger les opportunités comme ça simples que la vie nous offre de demander conseil à des gens avec qui on a été mis en contact, soit par le hasard, soit par une planification plus volontaire. Et il faut s'entourer des meilleurs pour adopter cette mentalité-là. Si on a cette mentalité-là, on ne peut que réussir.
Ah, super. Vraiment, je te remercie infiniment. J'ai appris beaucoup, beaucoup. J'aime bien ton système, ton énergie et tout ce que tu as inventé et introduit dans ton entreprise. Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas demandé? Est-ce que tu as quelque chose à partager dans le sujet de productivité?
chose que tu n'as pas demandé, je dirais, une chose que tu n'as pas demandé, c'est quelle serait la première action à suivre si on veut augmenter sa productivité après avoir entendu cette interview? Et ma réponse à cette question, ça serait, je pense que tout entrepreneur doit avoir un espace de temps qui lui est réservé pour faire les activités qui ont le plus, qui vont rapporter le plus à son entreprise. Et ce temps, que moi j'ai défini comme étant ma journée du lundi, doit être sacré. Donc le lundi, débranchez le téléphone, n'allez pas vous regarder vos mails, ne vous connectez pas aux réseaux sociaux, soyez injoignable. Et le lundi, vous travaillez que sur les activités directrices et motrices, c'est-à-dire que sur les choix stratégiques pour l'entreprise et sur les activités de planification de votre marketing, de votre communication commerciale. Si on fait que ça, je dirais que donc que c'est ce que je, mon conseil là ne prend pas une minute de plus de temps de travail sur une semaine d'entrepreneur. Au contraire, ça va vous libérer du temps parce que cette journée-là, vous ne serez pas en train de discuter avec des gens et d'être réactif, vous serez proactif. Eh bien, si on fait que ça, cette journée du lundi, pour moi, c'est le lundi, hein, parce que c'est pratique le lundi, je peux réfléchir en regardant la banque, etc., parce que ça ne fluctue pas pendant la journée, puisque les banques sont fermées en France le lundi. Mais si vous choisissez juste une journée dans votre semaine en procédant de cette façon, en étant en isolation et en travaillant, alors je ne dis pas de partir en vacances et d'aller pêcher, je dis de profiter de cette journée pour faire des tâches stratégiques et des tâches motrices. Si vous faites que ça, ça va déjà considérablement augmenter la productivité totale de votre semaine sans pour autant diminuer le volume, enfin augmenter le volume d'heures que vous aurez passé. Donc ça va augmenter votre productivité.
Tout à fait. Merci, merci beaucoup.
Merci à toi, Attila. Donc, ben, je suis impatient maintenant d'avoir des nouvelles de ton livre et de pouvoir le recommander.
Merci beaucoup. Merci.